oublions jamais de placer les choses en perspective.
Ça aurait dû être une grande célébration.
C'est quand même gros ce qu'on évoque là.
Très significatif
pour bien comprendre tout ce qui s'est passé.
Un professeur, pas comme les autres. Luc La Liberté.
Luc La Liberté, spécialiste en politique américaine, est avec nous. Salut Luc.
Bonjour Alexandre.
Alors, il y a tellement de choses à dire sur cette perquisition, cette saisie du FBI à Mar-a-Lago chez Donald Trump. D'ailleurs, au cours des tout derniers instants, ça déboule, il y a encore des nouvelles de dernière heure qui tombent sur Donald Trump. Ça n'arrête pas, Luc.
Écoute, il y a parfois des téléspectateurs ou des auditeurs qui nous disent, qu'on soit à la télé ou la radio, on parle beaucoup de Trump. Reste que ce qui se déroule revêt un caractère historique important. C'est une des premières choses que j'ai notées en apprenant que le FBI débarquait chez Donald Trump. Jamais dans l'histoire américaine, ça ne s'est fait. Donc, on a déjà enquêté ou surveillé des candidats. Par exemple, Mme Clinton, le même FBI auquel les Républicains reprochent de l'acharnement maintenant ou un quelconque complot, c'est le même FBI qui est intervenu à deux reprises pendant la campagne électorale au sujet des courriels de Mme Clinton. Donc, on s'est déjà intéressé à des candidats ou encore à des proches des candidats ou des présidents, mais débarquer comme ça, effectuer une saisie bien légitime, autorisée par un juge, écoute, c'est majeur.
C'était pas une partie de pêche de la part du FBI, là, Luc. Là. S'il se présentait là, c'est qu'il y avait de bonnes raisons de croire, ultimement, qu'un crime avait été commis.
Écoute, on a l'impression, à écouter ses partisans, que M. Trump est vierge, que M. Trump est exempt de tout reproche. Pour rappeler qu'il y a 6 de ses proches qui ont été condamnés, pour rappeler que Steve Bannon, il n'y a pas longtemps, a été reconnu coupable d'opposition, finalement, ou d'entrave à la justice. Donc, il a refusé une assignation à comparaître. Et qu'Alex Jones, qui est un des propagandistes ou des complotistes les plus connus, tristement célèbres aux États-Unis, a aussi parlé autour du 6 janvier et a fait la promotion de Donald Trump. C'est pas comme si autour de Donald Trump, il y avait aucune raison de s'inquiéter. Et on ajoute à ça la multitude d'enquêtes qu'il y a autour de Donald Trump. La Chambre des représentants, qu'on soit partisan ou non, la Chambre des représentants enquête et elle a fourni des preuves entourant finalement la participation directe ou indirecte de M. Trump et de son entourage dans l'assaut du 6 janvier 2021. Le ministère de la Justice enquête là-dessus. Et hier, ce qui a fait réagir plein de gens, c'est qu'on savait déjà que Donald Trump avait enfreint la loi quand il a quitté la Maison-Blanche. D'abord, il a enfreint la loi pendant qu'il était à la Maison-Blanche et il l'a enfreint après concernant tout ce qui est la préservation des archives présidentielles. Il y a une loi de 1978 qui est très claire, grosso modo, tout ce que fait, signe ou retient le président doit être déposé aux archives nationales, préservé. Et pour aller lire la loi, je le mettais dans mon article lundi, la loi est assez claire là, sur ce qu'on doit faire pour préserver les archives présidentielles. Et en quittant la Maison-Blanche, M. Trump est parti avec une quinzaine de boîtes de documents qu'il aurait dû normalement remettre aux archives. Son entourage a dit, écoutez, c'est une erreur. Si c'est une erreur, c'est une équipe d'amateurs. Sinon, c'est qu'on souhaitait préserver ces documents-là et qu'ils échappent au contrôle des archives nationales. On pense qu'hier, c'est ce que le FBI cherchait. On avait retourné l'essentiel de ces 15 boîtes aux archives nationales. Il semble qu'il en manquait. Et je ne serais pas étonné que ce soit que pour cette raison-là qu'on soit débarqué chez Donald Trump. Ce qu'on ne sait pas, puisqu'il faut attendre avant de confirmer des choses, c'est est-ce qu'on cherchait des documents qui auraient dû être préservés, mais qui sont en lien avec une des multiples enquêtes entourant Donald Trump. Est-ce que ça concernait le 6 janvier? Est-ce que ça concernait la raison pour laquelle Donald Trump était à New York et qu'il déposait aujourd'hui ou qu'il témoignait dans un procès le concernant, ses affaires et lui, ses compagnies et lui? Donc, moi, j'ai hâte d'avoir la suite. Mais c'est tout à fait légitime. Il faut que les gens soient informés, contrairement à la propagande qui entoure Donald Trump. Il faut que les gens sachent, un juge, on ne le fait jamais à la légère, donner une autorisation pour une perquisition. Puis tout le monde sait très bien qu'on s'en prend à l'ancien président des États-Unis. Ça veut dire que si le ministre de la Justice, hein, l'Attorney General est au courant, le juge est au courant, le FBI est au courant de ce qu'on fait, tout le monde réalise bien l'ampleur de ce qui s'est passé. Alors moi, je dis, laissons aller les choses. L'état de droit fonctionne encore aux États-Unis, les tribunaux fonctionnent. Attendons de voir la suite. Mais on peut se dire déjà en partant, c'est pas un complot. On a suivi les règles normales et il y a raison de s'inquiéter du comportement, des décisions, des manipulations de documents du président américain.
Mais tu vois, Luc, Donald Trump essaie déjà de tourner à son avantage la situation. Il suggère que le FBI pourrait avoir placé des preuves lors de la perquisition. C'est pas rien, là.
J'ai lu ça, puis écoute, ce qui est inquiétant, je le fais en rien parce que c'est du grand Donald Trump. Il a lui-même annoncé d'ailleurs la saisie du FBI pour tout de suite aller chercher ses partisans. Oui. Les réactions de ses partisans sur les réseaux sociaux, là, j'espère qu'on a noté ça aussi. D'abord, les réactions des politiciens. Kevin McCarthy, qui est le responsable des Républicains à la Chambre des représentants, a carrément menacé le procureur général des États-Unis. M. McCarthy pense que son parti va être majoritaire à la Chambre des représentants et il a averti le procureur général, libérez votre agenda, libérez votre horaire, votre planification, puis conservez tous vos documents. Sous-entendu, on va vous en faire une enquête à vous. C'est quand même pas rien. C'est le meneur du parti qui risque d'être majoritaire qui menace directement le procureur général des États-Unis. Donc, on est allé très loin dans la rhétorique. Et les partisans du président, il y en a plusieurs qui ont référé à une guerre civile. Quand on a vu ce qui est arrivé le 6 janvier 2021, je pense pas qu'on doive balayer ça sous le tapis ou dire c'est qu'une poignée de marginaux ou d'exaltés. Twitter puis les réseaux sociaux se sont emballés dès l'annonce par Donald Trump de la saisie du FBI. Donc, on est vraiment dans une situation qui est bien particulière. Et moi, j'hésite pas à le dire, même si parfois ça a l'air un peu sensationnaliste. Le sort de la démocratie américaine, il se joue dans les dernières élections et en particulier ces jours-ci. Ouais. Il faut qu'on soit capable de sanctionner quelqu'un en suivant, bien entendu, les règles et en s'appuyant sur des faits. Mais c'est la démocratie américaine qui est dans la balance.
Luc, tu as fait référence brièvement. Trump se retrouve aussi devant le tribunal à New York pour une histoire de fraude financière. Et là, on apprenait aussi au cours des toutes dernières minutes, quand je dis que les choses bougent rapidement, qu'il refusait de répondre aux questions du bureau de la procureure générale.
Et ça faisait déjà 2 ans que Letitia James, la fameuse procureure que les Républicains ne cessent d'attaquer parce qu'elle est démocrate, ça faisait 2 ans que Mme James souhaitait s'entretenir avec Donald Trump. M. Trump, c'est une des stratégies qu'il utilise depuis très, très, très longtemps, bien avant d'être en politique. Il fait traîner le dossier, le laisse pourrir en espérant qu'on va, comme ça, attendre des élections, qu'on remplace parfois des procureurs ou qu'on épuise les recours. M. Trump, donc, a même, et ça, c'était tout à fait légitime, là, on a même bénéficié d'un délai après le décès de sa première épouse, donc Ivana Trump. Alors, M. Trump se déplaçait aujourd'hui. Il a été frondeur avant d'aller témoigner, comme il l'est régulièrement, mais en arrivant là, il a invoqué le 5e amendement, c'est-à-dire le refus de témoigner pour éviter de s'incriminer, donc lui-même. Alors, il n'a pas répondu aux questions de Letitia James. Mais ça veut dire que ça suit son cours. On devait également faire témoigner deux des enfants Trump. Donc, si on a fait la même chose, qu'on a répondu de manière incomplète, on va voir ce que ça va donner. Quand on dit qu'elles sont multiples, les enquêtes autour de Donald Trump, ça va être intéressant aussi parce que ce qui se déroulait à New York ce matin, puis il y a 2 enquêtes parallèles qui se déroulent, c'est les pratiques en affaires de Donald Trump. Entre autres, la façon dont il vendait, achetait ses propriétés. Est-ce qu'il surévaluait la valeur selon le contexte ou s'il diminuait la valeur pour profiter d'exemptions de taux plus bas quand il procédait à des emprunts. Donc, c'est ce genre de trafic-là que M. Trump a déjà fait puis pour lequel on enquête, mais les représentants américains ont obtenu également l'autorisation d'un tribunal pour mettre la main sur ces fameuses déclarations de revenus. M. Trump a toujours refusé de les fournir, contrairement à la tradition qui s'est installée chez les présidents américains. On pourrait bénéficier aussi de ces nouvelles informations pour être en mesure de nourrir des procès parallèles ou encore les enquêtes de la Chambre des représentants. Donc, c'est la raison pour laquelle, juste dans ce que je viens de dire, j'ai à peine respiré, M. Trump, il est sollicité de toutes parts par des tribunaux. Et il faut rappeler encore une fois, c'est l'état de droit, ça s'appuie sur des faits, on va chercher des preuves. M. Trump n'est pas au-dessus de la justice. Et moi, je répète depuis le début, il doit rendre des comptes. Si on laisse aller Donald Trump et qu'on ne le met pas devant des tribunaux, qu'on ne l'accuse pas, ben écoutez, oubliez la démocratie américaine pour les années qui viennent. Ça veut dire que plus personne ne sera inquiété, qu'il n'y a plus rien de grave pour un politicien américain ou encore un président américain.
Luc, résultat quand même assez éloquent là, d'un sondage qui nous apprend que les Américains sont grandement en faveur du vote populaire plutôt que le fameux système de collège électoral là, qui est très différent de chez nous, qui peut paraître très compliqué aux yeux de plusieurs également.
Ouais, ben voilà, quand aux élections américaines, hein, surtout dans les dernières années, on n'attend pas le résultat total des votes. On sait très bien que M. Biden, par exemple, a largement dominé Donald Trump dans les intentions de vote. Mais il a fallu attendre pendant la soirée la confirmation en d'État particulier, parce que ce sont effectivement les grands électeurs de chaque État qu'on compile. Il faut en gagner 270 dans les différents États américains pour devenir président des États-Unis. Et c'est arrivé 5 fois dans l'histoire des États-Unis que des présidents soient élus en perdant le vote populaire, mais en remportant le collège électoral. Donc, en ayant, au sein de l'ensemble de la population, en étant minoritaire. Ce qui inquiète un peu les démocrates, les progressistes, c'est que c'est arrivé 2 fois récemment pour des présidents républicains. George W. Bush avait perdu, les 2 derniers présidents républicains, d'ailleurs, avaient perdu le vote populaire. Donc, c'est arrivé à George W. Bush en 2000, la fameuse élection qu'il opposait à Al Gore. Il perd le vote populaire et c'est arrivé, bien entendu, à Donald Trump également. Donc, les Américains, de plus en plus, en ont assez de cette mesure-là, qui remonte essentiellement au début de l'histoire des États-Unis, où on faisait ça pour éviter un déséquilibre. Essentiellement, il y avait d'autres raisons, mais un déséquilibre entre les États du Nord et du Sud, dont la population variait énormément. Donc, on a dit, il faut que chacun des États soit bien représenté, puis on a mis de côté un peu le vote populaire. C'était une autre époque totalement, mais aujourd'hui, ça nous donne une distorsion du système qui est assez impressionnante, parce qu'on la retrouve, cette distorsion-là, aussi dans le poids qu'on donne aux petits États pour élire des sénateurs. Donc, dans la population américaine, on se dit, on est en 2022, on est au 21e siècle, passons donc au vote populaire pour déterminer qui sera le président. Et on est arrivé à un chiffre qui avait jamais été atteint. On est à 63% de la population qui est en faveur et il y a 35% seulement qui s'y opposent. Par contre, vous aurez deviné que la difficulté, c'est que pour modifier ça, il va falloir jouer avec la Constitution, jouer avec les élections, et que la distorsion qui permet aux républicains d'être surreprésentés, ben, elle va faire en sorte qu'on ne changera pas le système. Mais c'est une, moi, des choses que je surveille pour la colère, la grogne, la frustration aux États-Unis, c'est que la majorité, comme par exemple sur la question de l'avortement, la majorité de la population ne voit pas sa volonté respectée dans beaucoup de dossiers parce que le système permet à un groupe qui est minoritaire d'avoir le dernier mot ou encore d'entraver des procédures ou d'entraver la mise en place de lois qui correspondent à la volonté de la majorité. Donc, c'est fort. Je voulais le souligner ce matin parce que ce taux-là n'avait jamais été atteint auparavant et même chez les républicains qui tirent avantage de ce système-là, il y a quand même 42% des républicains qui pensent qu'on devrait procéder par vote populaire plutôt qu'à l'aide du collège électoral.
Luc, on doit s'arrêter là-dessus. Très intéressant comme toujours. À bientôt, on fait ça vendredi.
À bientôt, Alexandre.
Bye bye.